RCF.
Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices de RCF Alpes-Provence. Bonjour à vous, Monseigneur Xavier Mal. Merci d'être encore présent pour ce rendez-vous toutes les semaines avec les chrétiens de notre diocèse de Gap en Brun, où vous allez nous donner quelques nouvelles à la fois du diocèse et puis des activités ou des événements à venir. Mais d'abord, Monseigneur, vous me disiez à l'instant que vous rentriez de Madrid voici quelques jours et vous célébriez des confirmations dans la paroisse française de Madrid. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Oui, c'est une découverte pour moi, l'Espagne d'abord et puis Madrid et cette paroisse française. Ça me permet aussi à moi de prendre conscience que être évêque, c'est être évêque d'un territoire, d'un diocèse donné, mais aussi membre du collège épiscopal et par là même être appelé aussi à rendre des services ailleurs dans l'Église. Et donc le curé de la paroisse française, la paroisse Saint-Louis, cherche tous les ans un évêque pour faire les confirmations des jeunes de sa paroisse. Et j'étais agréablement surpris, il y avait 20 jeunes et 2 adultes dedans, une étudiante et un jeune professionnel, qui ont été très bien préparés pour cela, que j'ai rencontré la veille. J'en ai profité aussi pour tout vous dire, pour rien vous cacher, tant qu'à faire rentabiliser l'avion, pour rester 2 jours avant et 2 jours après. Parce que je ne connaissais pas Madrid, donc j'ai visité la ville historique et surtout j'aime beaucoup quand je suis dans une ville visiter les musées. Parce que c'est aussi pour moi presque un acte spirituel, en fait. Vous savez, quand vous visitez un musée d'art classique, je vais l'appeler comme ça, 99% des œuvres, ce sont des œuvres religieuses. Donc j'ai visité le musée du Prado avec des œuvres incroyables que je connaissais pour les avoir vues sur des livres. Hein, mais voilà, c'est autre chose de les voir en vrai, là. Et puis des grands auteurs espagnols que je ne connaissais pas, ou enfin, que je connaissais de nom, ou voilà, que j'avais jamais rencontré, comme El Greco,
Velázquez, Zurbarán.
Voilà, enfin, il y en a certains qui sont magnifiques, vraiment, quoi. Et puis après, j'ai fait aussi, un autre jour, j'ai fait le musée d'art moderne, qui s'appelle le musée de la Reine Sophia. Alors, c'est très impressionnant. Là, je n'ai trouvé, j'ai passé un peu rapidement tout le musée, là, mais dans toutes les œuvres, une seule œuvre religieuse. Et on voit tout d'un coup ce décrochage qu'il y a eu de l'art en tant que tel, qui était un art essentiellement religieux, qui est devenu un art essentiellement laïque, en fait. Mais avec quand même une vraie émotion spirituelle quand j'ai passé un peu de temps devant l'œuvre Guernica, qui est une œuvre de Picasso qu'il a fait après un massacre pendant la guerre civile espagnole, un bombardement plus exactement, et qui est une œuvre qui représente tellement la désespérance, notamment la désespérance des mères devant leurs enfants morts de ce bombardement. Donc il y a aussi une vraie expérience spirituelle là-dessus, en sens aussi où il y a très peu d'espérance dans ce tableau, quoi. Et il manque l'espérance chrétienne. Voilà, donc c'était à la fois, vous voyez, un service épiscopal. Et c'est toujours, ça ouvre le cœur hein, de voir d'autres églises, comment d'autres font église ailleurs, mais aussi pour moi un moment de repos et de vacances et de découverte artistique. Ouais.
Alors, de retour dans le diocèse, vous poursuivez votre pérégrination dans les différents secteurs ou doyennés du diocèse et notamment de dimanche en dimanche où vous proposez aux différentes paroisses du diocèse une journée de récollection un peu pour nous préparer à vivre en église ce grand jubilé qui sera célébré à Rome l'an prochain, mais cette année est consacrée davantage à une réflexion, mais aussi un retour à la prière. Alors, vous visitez le diocèse en enseignant aussi chaque paroissien de ces secteurs de notre diocèse, en leur offrant une parole sur le Notre Père.
C'est ça. En fait, j'ai remplacé cette année les visites pastorales en paroisse, qui duraient 3 jours ou 5 jours, suivant la taille des paroisses, par une journée de récollection, soit par paroisse, soit par groupe de paroisse, soit par doyenné. Donc, je circule un peu partout. Là, dimanche prochain, c'est à Saint-Bonnet, dans le Champsaur. Donc, j'invite tous les champsaurins à nous rejoindre toute la journée. Et puis, le samedi d'après, c'est à la Saulce. Et puis après, on va aussi à la Bâtie, etc. quoi. Encore pas mal de dates à faire. Donc sur le Notre Père, avec 2 enseignements et la messe pour mettre en application ce qu'on aura écouté.
En ce moment, Monseigneur, vous vous apprêtez, vous êtes en train de préparer une lettre que vous allez adresser aux agriculteurs de notre département et c'est un peu à l'occasion de ces prières que l'on appelle les rogations. Alors, est-ce que vous pouviez nous partager un peu, à la fois un peu le contenu de cette lettre adressée aux agriculteurs et puis ce que sont ces rogations, quel jour et le contenu de cette prière, comment cela se passe?
Mais sans doute, vous rappelez-vous, en janvier, février, nous avons eu quelques ronds-points autoroutes bloqués par nos frères et sœurs agriculteurs. Et comme je le fais habituellement chaque année, j'ai un déjeuner avec quelques agriculteurs chrétiens qui est devenu un groupe très amical, très sympathique. Et là, c'était début avril et j'ai tenu avec eux à leur permettre de faire une relecture, de relire ce mouvement social de l'agriculture. Et c'est un peu en les entendant que m'est venue cette idée de partager à l'ensemble de la communauté chrétienne ce que vivent nos frères agriculteurs et leur analyse de la situation, parce qu'il me semble que ce qu'ils m'ont dit était vraiment juste, était ajusté et pouvait permettre d'expliquer le mouvement et de comprendre ce qu'ils vivent et ce mouvement. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu une sorte de, qu'on appelle ça un verbatim, de prise de notes, et je partage un peu toutes les notes que j'ai prises pendant ce déjeuner avec des agriculteurs chrétiens. Donc voilà, vous trouverez ça sur le site internet du diocèse. On va le diffuser effectivement à l'occasion des rogations. Les rogations sont les 3 jours de prière avant le jeudi de l'Ascension. Traditionnellement, on priait, on faisait des processions dans les champs pour demander des bonnes récoltes. Donc il y a plusieurs paroisses ou monastères, Rosan, ou la Lorde d'Hermite aussi à Montmorin, et un certain nombre de paroisses après qui ont repris cette tradition, puisque nous sommes un diocèse où il y a encore beaucoup d'agriculteurs.
Merci. Lundi 29 avril, vous célébrerez une messe au Cordelier à 18h. C'est vous qui présiderez cette messe pour les donateurs et testateurs de notre diocèse, mais aussi dans le cadre pour fêter le 100e anniversaire de l'association diocésaine.
Effectivement, vous voyez, il me semble que c'est la moindre des choses que l'on peut faire, de prier pour le repos de l'âme, ou les repas éternels, ou les noces éternelles, le repos de l'âme de nos frères et sœurs chrétiens qui ont souhaité laisser une trace un peu de leur vie dans le futur de l'Église par un testament, par un legs qu'ils ont fait, ou alors par un don de leur vivant. Et donc cette messe est à la mémoire de tous les donateurs et testataires qui sont décédés ces derniers mois, cette année. Et on va prier pour eux, et c'est l'occasion quelque part, de remercier le Seigneur pour cette générosité aussi. Et aussi l'occasion, cette année, c'est effectivement le centenaire de la création des associations diocésaines. Alors, pour vous replacer ça dans le contexte, vous rappelez qu'en 1905, il y a eu la loi de séparation des églises et de l'État, où le législateur a décidé que l'État n'avait plus à s'intéresser au fonctionnement interne des églises, mais en conséquence ne les subventionnait plus. Puis il y a un certain nombre de bâtiments qui nous ont été pris, parce qu'il faut appeler les choses comme ils sont à ce moment-là. Et le législateur, l'État, a voulu faire passer l'Église selon la loi de 1901, qu'il avait prévu quelques années auparavant, les associations. Or, dans cette loi de 1901, que nous connaissons bien, RCF, c'est une association, il y a un président qui est élu, il y a des membres de conseil d'administration. Or, dans un diocèse, l'évêque n'est pas élu par le peuple de Dieu, il est nommé par le pape. Donc, on ne pouvait pas rentrer dans ce mode-là. Et donc, le pape de l'époque avait demandé aux évêques français de refuser d'entrer là-dedans. Et l'Église a été pendant deux décennies, en fait, sans statut juridique en France. Et c'est après la Première Guerre mondiale où les choses se sont apaisées, l'anticléricalisme s'est apaisé. Pourquoi ? Parce que, comme disait un poète, les gens qui croyaient en Dieu et les gens qui n'y croyaient pas étaient ensemble dans les mêmes tranchées et ont souffert la même chose. Et donc il y a une certaine solidarité des tranchées qui ont fait surmonter cette hostilité qu'il y avait contre les prêtres, contre les religieuses, contre les croyants. Quoi. Et ça a permis après des accords entre le secrétaire d'État du Vatican de l'époque et le ministre des Affaires étrangères de l'époque, en 1924, qui a permis de créer ces statuts vraiment spécifiques d'associations diocésaines. C'est à la fois une association style 1901, mais avec une gouvernance particulière. Voyez. Et on vit toujours sur ces statuts-là. Alors, ils ont été remédiés, ça j'en ai parlé longuement ici même à vos antennes dans une dernière loi pour le renforcement des principes républicains, avec un certain nombre de choses qui nous inquiètent. Mais voilà, c'est toujours la base, c'est toujours ces accords de 1924. Et donc, derrière ça, on va mettre une petite plaque dans le centre diocésain pour remercier tous ceux qui ont travaillé dans cette association diocésaine et faire mémoire, par exemple, de tous les économes successifs, de tous les vicaires généraux, de tous les évêques aussi successifs.
Et on s'entend, il y a dû y en avoir un grand nombre.
Il y en a eu. J'ai découvert, vous voyez, l'archiviste que nous avons a fait une recherche là-dessus. Mmh. Par exemple, c'était à plusieurs reprises, il y a eu deux vicaires généraux, ce que j'ai connu en arrivant aussi. Mmh. Ça existait. On a eu aussi une fois, ça n'a pas duré très longtemps, mais on a eu une économe femme. Le grand changement, ça a été quand on est passé d'un économe prêtre à un économe laïque. Ça, c'était le grand changement, quoi. Voilà, c'était intéressant de se pencher là-dessus et de rendre grâce au Seigneur pour ces 100 ans qui ne sont possibles, qui n'ont été possibles que par la générosité des chrétiens. Donc j'en profite pour relancer un petit appel pour le donner de l'Église, qui est un vrai devoir pour chaque chrétien qui gagne sa vie de participer au fonctionnement de son Église.
Merci, parce que rendre grâce pour un anniversaire, c'est aussi l'occasion de demander au Seigneur de nous aider à continuer ce chemin et dans la lumière aussi de l'Évangile et avec le souffle de l'Esprit Saint. Alors nous allons bientôt célébrer et fêter les deux belles fêtes de l'Ascension et de la Pentecôte, mais avant cela, il y a la journée du 1er mai. À partir du 1er mai, nous allons vivre dans le diocèse une neuvaine de prières à Marie, du 1er au 9 mai. Vous pouvez nous en dire plus, Monseigneur ?
Oui, c'est une intuition là, personnelle que j'ai proposée au discernement des différents conseils. Je pense que le monde actuel est vraiment dans une période charnière. Je parle des relations internationales. Comme dit le pape, c'est une guerre mondiale par morceaux. On est entré dans une nouvelle période, une nouvelle ère des relations internationales et qui nous angoisse tous, en particulier en Europe, mais aussi, on le sait, au Moyen-Orient avec l'affreuse guerre, les affreux attentats, puis l'affreuse guerre à Gaza. Mais aussi dans d'autres pays où il y a des menaces de guerre entre la Chine et Taïwan. Voilà. Donc on peut être vraiment angoissé sur l'avenir. Je me suis dit, comment nous, chrétiens, vivre ça? Comment ne pas perdre l'espérance? C'est surtout ça. Eh bien, il faut nous ancrer dans la prière. D'où cette idée d'une neuvaine. Et naturellement, je l'ai proposé au sanctuaire du Lot. Le recteur a été enchanté. Et on s'est dit qu'on allait les démarrer le 1er mai, qui est le jour de la fête de Notre-Dame du Lot, comme étant le premier jour du mois de Marie. Et après 9 jours, vous savez pourquoi 9 jours? L'origine de 9 jours, c'est traditionnellement les 9 jours entre l'Ascension et la Pentecôte. Mais c'est aussi parce que, anthropologiquement, dans notre pratique, 9 jours, c'est plus qu'une semaine. C'est-à-dire que c'est assez long. Et en même temps, on peut y réussir, de prier 9 jours la même prière. On peut tenir, on peut. Donc je trouve que c'est très juste, cette idée, cette pratique de la neuvaine. Donc c'est une neuvaine pour confier à Notre-Dame du Lot, la paix sur le continent européen. Et c'est ça vraiment l'intention de prière, la paix sur le continent européen. Mais vous allez voir qu'on va élargir parce que le 5 mai, par exemple, le dimanche 5 mai, c'est la journée des chrétiens d'Orient. Et alors on vous propose d'élargir ce jour-là à la paix, par exemple, en Israël et Gaza, pour tous les chrétiens d'Orient. Mais une partie des Ukrainiens sont considérés comme des chrétiens d'Orient parce qu'ils sont de rite oriental. Donc on reste aussi sur le continent européen. Voilà, en tout cas, vous pouvez trouver cette prière et toutes les informations sur le site internet. Le principe est simple. Pendant 9 jours, vous récitez la même prière. Ce n'est pas de la magie, ça montre votre fidélité et vraiment votre confiance au Seigneur pour la paix sur le continent européen.
Et cette prière, nous pourrons l'entendre aussi plusieurs fois par jour sur l'antenne de RCF. Alors, le 1er mai, de nombreux pèlerins du diocèse et des autres diocèses se rendront au Lot pour la fête de Notre-Dame du Lot, qui sera présidée par Monseigneur Gobillard, qui viendra en voisin, puisque c'est l'évêque de Digne. Vous-même, Monseigneur, vous serez à Aix pour vivre avec tous les diacres de la province un temps de célébration pour fêter les 60 ans de la restauration du diaconat permanent dans l'Église.
C'est ça, c'est une proposition des évêques et vicaires généraux de la province quand nous nous sommes rencontrés de fêter cela en province, puis après de le fêter en diocèse. Donc en province, ce sera effectivement le 1er mai. Et comme c'est Mgr de Larbre, l'archevêque d'Aix, qui suit pour les autres évêques, qui accompagne les diacres pour les autres évêques au niveau de la province, c'est chez lui que ça se passe. Donc c'est une journée où sont invités les diacres, leurs épouses, des prêtres qui ont des diacres dans leur paroisse, les prêtres accompagnateurs du diaconat et les évêques qui le peuvent. Donc j'aurai la joie. C'est pour moi l'occasion de rendre grâce à Dieu pour tout ce que les diacres donnent sur notre diocèse, mais aussi pour ce que j'ai reçu par un certain nombre de diacres que j'ai eu l'occasion de connaître quand j'étais curé. Et j'ai eu la joie de fonctionner comme curé en Touraine avec deux diacres, un ancien et un jeune, avec qui les choses étaient merveilleuses. Et donc je rends grâce pour cela. Et c'est aussi pour moi un encouragement au diaconat, parce que parfois il y a des difficultés pour les diacres, parce que finalement c'est récent, hein, c'est 60 ans, hein, c'est récent à l'aune des 2000 ans de l'Église, hein, et donc parfois les diacres ont du mal à trouver leur place dans une paroisse, dans une communauté chrétienne, et c'est aussi l'occasion pour aider chacun, et en particulier les chrétiens, à leur faire une place. Et c'est pour ça aussi que nous vivrons la même chose en septembre, fin septembre, je crois que c'est le samedi 28 septembre de mémoire, samedi 28 septembre à Embrun, pour un peu une journée diocésaine
avec du diaconat. Avec les diacres du diocèse.
Avec les diocèses, des prêtres et les fidèles laïcs qui nous rejoindront. Quoi.
Eh bien, nous vous souhaitons de vivre avec eux une belle fête, une belle journée du 1er mai. Une prochaine fois, Monseigneur, vous pourrez nous parler de la parution prochaine de la bulle d'indiction pour le Grand Jubilé. C'est le pape François qui va nous offrir le 9 mai ce texte-là. Et puis, vous nous parlerez aussi de la vigile de Pentecôte qui se prépare à la cathédrale le soir du 18 mai. Mais avant de rendre l'antenne, et comme vous en avez l'habitude, nous allons, Monseigneur, vous écouter un moment au sujet d'un enseignement sur le texte Dignitas Infinita que vous avez déjà commencé à nous lire.
Voilà, c'est un texte très récent qui vient de la congrégation du Dicaster pour la... Je vais trouver mon nom. Du Dicaster, la doctrine de la foi, qui est signé par le cardinal Manuel Fernandez, qui est le préfet de ce Dicaster pour la doctrine de la foi, et qui a été approuvé spécifiquement pour le pape, par le pape. Donc c'est un texte important. Donc l'autre fois, j'ai partagé un peu la présentation par le cardinal. Et là, je vais entamer la lecture un peu de l'introduction des éléments essentiels, comme on fait d'habitude. Alors, vous savez que le titre d'un texte, souvent du Vatican, ce sont les premières paroles. Et là, c'est en latin, dignitas infinita, une infinie dignité, inaliénablement fondée dans son être même, appartient à chaque personne humaine, en toutes circonstances et dans quelque état ou situation qu'elle se trouve. Et le texte dit « Ce principe pleinement reconnaissable, même par la seule raison, intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être chrétien pour reconnaître ce principe, fonde la primauté de la personne humaine et la protection de ses droits. » Donc l'Église, à la lumière de la révélation, réaffirme et confirme sans réserve sa dignité ontologique. C'est un mot, un peu un gros mot, dignité ontologique, ça veut dire dignité de l'être même, hein, qui n'est pas par rapport à ce qu'il fait, mais par rapport à ce qu'il est profondément. Et pourquoi ? Parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, créé, et qu'il est racheté dans le Christ Jésus. Vous voyez, c'est de cette double vérité, hein, on est créé et racheté, que l'Église tire les raisons de son engagement envers les plus faibles et les moins dotés de pouvoir, en insistant toujours sur le primat de la personne humaine et de la défense de sa dignité. Alors ensuite, en paragraphe 2, le pape, hein, pas le, c'est pas le pape, pardon, ce texte de la doctrine de la foi insiste sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ce texte le reprend à plusieurs reprises, on y reviendra, qui date du 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies. Et donc on fête les 75e anniversaire de ce document. Et là, le texte dit que l'Église voit l'occasion de proclamer à nouveau sa conviction que créé par Dieu et racheté par le Christ, tout être humain doit être reconnu et traité avec respect et amour, précisément en raison de sa dignité inaltérable. Oui. Le paragraphe 3 nous dit que dès le début de sa mission, poussée par l'Évangile, l'Église était forcée d'affirmer la liberté et de promouvoir les droits de tous les êtres humains. Et que dans les derniers temps, avec la voix des pontifes, eh bien, cet engagement a été formulé de manière plus explicite. Oui. Ainsi, par exemple, il cite Paul VI, il cite aussi Jean-Paul II, qui en 79, lors de la troisième conférence épiscopale latino-américaine, disait « La dignité humaine est une valeur évangélique qui ne peut être méprisée sans offenser gravement le Créateur. » Vous voyez, la dignité humaine comme une valeur évangélique. Oui. Cette dignité est foulée aux pieds au plan individuel, mais elle est aussi foulée aux pieds au plan social et politique. Vous voyez, ça c'est Jean-Paul II là. Et puis le pape Benoît XVI lui-même, en 2010, devant l'Académie pontificale pour la vie, il détaille différentes choses et il dit par exemple, il rappelle que l'économie et la finance n'existent pas pour elles-mêmes, elles ne sont qu'un outil, un moyen. Leur fin est uniquement la personne humaine et sa réalisation plénière dans la dignité. C'est là le seul capital qu'il convient de sauver. Et puis enfin, paragraphe 6, il cite le pape François, qui a invité l'Église à confesser un Père qui aime infiniment chaque être humain et à découvrir qu'il lui accorde par cet amour une dignité infinie. Et selon le pape François, cette source de la dignité humaine et de fraternité se trouve dans deux choses, l'évangile de Jésus-Christ, mais aussi par une conviction à laquelle la raison humaine peut parvenir par la réflexion. Donc l'évangile et la réflexion, les deux sources de cela. Et le résultat, c'est que tout être humain possède une dignité inaliénable. C'est une vérité qui correspond à la nature humaine, indépendante de tout changement culturel. Alors, au paragraphe 7, le texte relève qu'il y a des malentendus sur l'expression « dignité de la personne humaine ». Un certain nombre de malentendus. Par exemple, on reconnaît une quadruple distinction. Il y a une dignité ontologique dans l'être, il y a une dignité morale, une dignité sociale et une dignité existentielle. Alors, la dignité ontologique, c'est le plus important, c'est la personne en elle-même, par le simple fait d'exister et d'être voulu, créé, aimé par Dieu. Cette dignité ne peut jamais être effacée, reste valable au-delà de toutes circonstances. Puis il y a une dignité morale, qui est plus par rapport à l'exercice de la liberté de la créature humaine. Et la créature peut agir contre cette dignité morale, cette liberté. Vous voyez, l'être humain peut adopter un comportement indigne. Cette possibilité existe. Vous voyez. Et puis la dignité sociale, c'est quoi ? Ce sont les conditions dans lesquelles une personne vit. Vous voyez. Par exemple, dans l'extrême pauvreté, lorsque les conditions minimales ne sont pas réunies pour qu'une personne vive selon sa dignité ontologique, on dit que la vie de cette personne pauvre est une vie indigne. Et là, ce n'est pas un jugement à l'égard de la personne, mais ça vise à mettre en évidence le fait que sa dignité inaliénable est contredite par la situation dans laquelle elle est contrainte de vivre. Et puis, la dernière utilisation de ce mot de dignité, c'est la dignité existentielle. Et aujourd'hui, on parle plus souvent d'une vie digne ou d'une vie indigne. Par exemple, une personne qui, bien que ne manquant rien d'essentiel pour vivre, a du mal à vivre dans la paix, dans la joie et l'espérance, ou dans la présence de maladies graves, de contextes familiaux violents. Mais tout ça, il est important de comprendre que ces différences entre cette quadruple distinction du concept de dignité ne font que rappeler la valeur inaliénable de cette dignité ontologique. Et puis enfin, le texte au paragraphe 9 rappelle la définition classique de la personne, puisque là, le texte, il est sur la dignité de la personne. Qu'est-ce que c'est qu'une personne ? Alors, on va faire un peu de philosophie ensemble, là. C'est une substance individuelle de nature rationnelle. Substance individuelle de nature rationnelle. Là, je sens que beaucoup de nos auditeurs ont décroché, là, déjà. On va essayer de les raccrocher. En tout cas, c'est le fondement de la dignité. Et c'est développé un peu. En effet, en tant que substance individuelle, la personne jouit d'une dignité ontologique au niveau métaphysique de l'être lui-même. C'est un sujet qui, ayant reçu l'existence de Dieu, subsiste. Autrement dit, exerce l'existence de manière autonome. J'existe, quoi. Je subsiste d'une manière autonome. Voilà, je suis un individu. Et puis le mot rationnel, ça englobe en fait toutes les capacités de l'être humain, aussi bien celle de connaître et de comprendre que celle du vouloir d'aimer, de choisir, de désirer. Le terme rationnel comprend donc également toutes les capacités corporelles. Vous voyez, donc là, on est un tout, en fait. Donc, est-ce que je ne sais pas si c'est un peu plus compréhensible cela, la définition que je vais relire une fois, définition classique de la personne, une substance individuelle de nature rationnelle. Ça, c'était l'introduction de ce texte-là. Et on arrive au chapitre 1, une prise de conscience progressive du caractère central de la dignité humaine. Ça, c'est le chapitre 1. Ensuite, le chapitre 2, l'Église proclame, promeut et garantit la dignité humaine. Chapitre 3, la dignité fondement des droits et des devoirs de l'homme. Et le chapitre 4, quelques violations graves de la dignité humaine. C'est ce chapitre 4 qui a surtout fait parler la presse, parce qu'on en parle, en particulier de l'euthanasie, d'un certain nombre d'autres atteintes à la dignité humaine. Mais c'est important de prendre le temps de lire le reste du texte. Donc on va démarrer le chapitre 1, quelques instants, une prise de conscience progressive du caractère central de la dignité humaine. Et là, ce texte nous fait un peu de l'histoire de la notion, de l'histoire de la philosophie pratiquement. Alors d'abord, dans l'Antiquité classique, il y a trois étapes. Dans une perspective sociale, chaque être humain est doté d'une dignité particulière en fonction de son rang, dans un certain ordre. Ensuite, la dignité élevée par rapport à la présence dans le cosmos. Et donc, tous les êtres ont leur propre dignité en fonction de leur place dans l'harmonie. Et puis enfin, certains sommets de la pensée antique commencent à reconnaître une place singulière à l'être humain dans la mesure où il est doué de raison. Voilà, donc ce sont les débuts de la réflexion sur la dignité humaine dans l'Antiquité grecque classique. Après, nous avons la révélation biblique, qui est un vrai saut dans la connaissance, avec, je dirais, quatre étapes principales. La première étape, tous les êtres humains possèdent une dignité intrinsèque car ils sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image ne définit pas l'âme ou les capacités intellectuelles, mais la dignité de l'homme en entier. Première chose, tous les êtres humains, parce qu'ils sont créés. Deuxième chose, la dignité de l'homme et de la femme, l'un et l'autre, dans leur relation d'égalité et d'amour mutuel. Ça, c'est une grande avancée de la révélation biblique. Donc ça transcende toutes les distinctions sexuelles, sociales, politiques, culturelles, religieuses. Notre dignité nous est donnée. Elle n'est ni revendiquée ni méritée. Chaque être humain est aimé et voulu par Dieu pour lui-même. Elle est donc inviolable. Oui. Ensuite, il y a une troisième étape dans l'Ancien Testament que l'on trouve aussi, c'est le cri des pauvres. Vous savez, on trouve ça dans l'Exode, dans Isaïe, etc. En particulier, on trouve beaucoup de textes en faveur d'une triple catégorie de l'orphelin, de la veuve et de l'étranger. C'est comme un refrain qui revient beaucoup dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, l'attention à l'orphelin, à la veuve et à l'étranger. Et les prophètes, de nombreux prophètes, Amos, Osée, Isaïe, Michée, dénoncent l'injustice. Voyez. Le Siracide assimile l'oppression des pauvres à un meurtre. C'est tuer son prochain que lui retirait sa subsistance. C'est verser le sang que priver l'ouvrier de son salaire. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Voyez. Voilà, donc l'Ancien Testament, une nouvelle étape là, c'est le cri des pauvres. Et puis après, nous avons que nous apporte le Christ, Jésus, qui lui-même est né dans des conditions humbles, qui a révélé la dignité des nécessiteux et des travailleurs tout au long de son ministère. Voyez. Il a brisé en fait un certain nombre de barrières culturelles et cultuelles en leur redonnant la dignité à ceux qui étaient mis au rebut. On pense aux collecteurs d'impôts, Matthieu, dont il a fait un apôtre. On pense aux femmes, aux enfants, aux lépreux, aux malades, aux étrangers, aux veuves. Jésus guérit, nourrit, défend, libère. Vous rappelez l'épisode de la femme adultère. Donc les grandes pécheresses. Et puis Jésus aussi s'identifie lui-même à ses frères les plus petits. « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » C'est Matthieu 25. Et enfin, il nous dit que le Christ glorieux jugera en fonction de l'amour envers son prochain. Voyez, que le respect, le bienfait à tout être humain, indépendamment des liens de sang de la religion, c'est le seul critère du jugement. Voilà un peu tout ce grand développement dans la révélation biblique. Et je crois qu'on verra la suite la prochaine fois. Et là, on verra le développement de la pensée chrétienne après de l'Église.
Merci beaucoup, Monseigneur, pour cette présentation de ce beau texte sur la dignité de la personne humaine qui peut être interpellant, qui peut venir interpeller à la fois nos sociétés en cette époque, aux sociétés de notre temps, et puis selon l'expression affectionnée de notre pape qui peut interpeller toutes les personnes de bonne volonté. Merci, Monseigneur, pour ce temps de rencontre et de partage, et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine.
La semaine prochaine, et merci Père Jean-Marie d'avoir remplacé aussi notre
journaliste. Voilà, vous retrouverez
Christine
la semaine prochaine. Au revoir à tous nos auditeurs et auditrices.